Excusez-moi.
Je préfère, commencer par magnétophone, si c'est les vedettes. Bonjour. Oui, bon, ça y est, ça va. Alors, aujourd'hui, on va se poser la question de savoir à quoi sert l'Église. Le sujet est toujours un peu compliqué, parce que finalement, la question de savoir qui nous sauve, elle est claire, c'est Dieu qui nous sauve par Jésus-Christ. Et donc, a-t-il besoin d'une église pour nous sauver ? Non. Et pourtant, on est là et il nous a confié, en quelque sorte, une mission. Alors, c'est ce qu'on va essayer de réfléchir. Et bien sûr, ben, le plus simple quand même, le plus juste finalement, c'est de repartir de Jésus-Christ. Et on va partir de Jésus-Christ avec ces trois grandes figures du prêtre, du prophète et du roi, qui sont les grandes figures de l'Ancien Testament et que Jésus accomplit parfaitement dans sa propre personne. C'est donc comme ça qu'on va partir de la mission de l'Église. Je vais profiter de ce chapitre pour dire quelques mots sur la vie religieuse. On en reparlera dans une heure, donc. Mais simplement, la vie religieuse ne fait pas partie de la structure hiérarchique de l'Église. C'est quelque chose d'un petit peu à part, et je ne sais jamais où il faut la mettre dans le cours sur l'Église. Alors cette année, je la mets aujourd'hui. Voilà. Donc, je voudrais simplement, avant, vous rappeler les deux schémas qu'on avait fait quand on avait vu le royaume. Là, tout à l'heure, j'étais un peu occupée parce que je suis allée rechercher ces schémas dans mon ordinateur. Où, ce temps de l'Église, on essaye de le situer par rapport au royaume. Avec le schéma de l'Église en pèlerinage sur la terre, l'événement pascal a eu lieu, nous sommes bien sauvés, Jésus nous a sauvés, il est mort, il est ressuscité. Mais là, on n'est pas encore dans le royaume, il y a une attente. C'est une forme d'eschatologie avec du devenir. Deuxième schéma d'eschatologie qu'on a eu, on a ce royaume qui est qui est présent en permanence pour le monde, pour les hommes, mais qui est inaccessible. Alors, ici, on aurait pu mettre de temps en temps le prophète Jacob sur son échelle, qui a un contact avec le royaume. Jésus, ben, c'est celui qui fait se rencontrer le royaume de Dieu, le Père et la Terre. Il est là, c'est l'événement pascal. Et nous, dans notre temps présent, eh bien, comme on peut, difficilement, mais en prenant exemple sur Jésus, on essaye d'accueillir ce royaume qui se donne à nous et de donner notre réponse à ce don que nous fait Dieu. Donc, simplement pour vous rappeler que ces schémas que nous avons vus au deuxième cours sont les schémas dans lesquels il faut imaginer que vit l'Église. Et donc, maintenant, je reviens à la mission de l'Église en prenant les premiers mots d'une encyclique de Jean-Paul II de 1990 qui s'appelle « La mission du Christ rédempteur ». Et les premiers mots, « La mission du Christ rédempteur confiée à l'Église » est encore loin de son achèvement. Donc, ce n'est pas la mission de l'Église, c'est celle du Christ qui nous la confie. On va continuer quelques mots de Jean-Paul II. En ressuscitant Jésus d'entre les morts, Dieu a vaincu la mort et, dans le Christ, il a inauguré définitivement son règne. Le règne. Pendant sa vie terrestre, Jésus est le prophète du royaume, et après sa passion, sa résurrection et son ascension au ciel, il participe à la puissance de Dieu et à son pouvoir sur le monde. La résurrection confère une portée universelle au message du Christ, à son action et à toute sa mission. C'est sur l'annonce de Jésus-Christ, avec qui s'identifie le royaume, qui est centré la prédication de l'Église primitive. Aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse, il faut de même unir l'annonce du royaume de Dieu et la proclamation de l'événement Jésus-Christ. Avant tout, le royaume se manifeste dans la personne même du Christ, fils de Dieu et fils de l'homme, venu pour servir et donner sa vie en rançon d'une multitude. Le royaume de Dieu n'est pas un concept, une doctrine, un programme que l'on puisse librement élaborer, mais il est avant tout une personne qui a le visage et le nom de Jésus de Nazareth, image du Dieu invisible. Donc, se rappeler que toutes les fois qu'on va réfléchir à quoi sert l'Église, pourquoi une Église, quelle est la mission de l'Église, ou nous autres chrétiens, qu'est-ce que nous devons faire, nous devons nous rappeler en permanence que ce que nous annonçons, le royaume de Dieu au service duquel nous travaillons, c'est une personne qui a un visage particulier, celui d'un homme qui a vécu quelque part en Palestine il y a 2000 ans. Et donc, on n'a pas une vérité conceptuelle. On est dans un royaume personnel et on est dans le relationnel. Ce qui fait aussi que Jésus est une personne tellement contextuelle, tellement particulière, que nous savons bien que maintenant, à la suite de Jésus, ça ne va pas être aller habiter en Palestine et aller pêcher des poissons sur le lac de Galilée avec une barque à rames. C'est comprendre comment dans cette particularité, cette singularité de Jésus-Christ, il y a un message universel. Donc il faudra toujours articuler cette singularité, celle de Jésus-Christ, la nôtre, celle des gens avec qui on travaille, à l'universel du message. Voilà un petit peu quelques pistes. Et une autre piste importante, c'est que pour avoir une chance de ne pas se tromper, je ne vais pas vous dire qu'il y a un truc absolu qui marche à tous les coups, mais pour avoir une chance de ne pas se tromper, il ne faut jamais séparer notre foi, notre travail au service de la foi, de son assise biblique. Alors, je continue. Je redis la même chose. Toute mission prend son origine dans la voie du Fils. Donc, les églises, l'église, suivant comment on parle, ce sont des agents responsables de la mission chrétienne, des gens à qui on a confié une mission, mais ce ne sont pas l'origine, ce n'est pas elles qui doivent dire quelle est leur mission. Elles le reçoivent du Père, par le Fils, dans l'Esprit. Autre chose, toute mission est annonce de l'Évangile, d'une bonne nouvelle. Et annoncer l'Évangile, c'est montrer Jésus-Christ, ce n'est pas reproduire un modèle. Donc, il faut, dans la mission de l'Église, il faut beaucoup d'imagination et de créativité. L'imagination, la créativité, c'est le travail de l'Esprit-Saint. Donc, on est équipé, notre Dieu est Trinité, et il nous dote de l'Esprit-Saint pour l'imagination. L'histoire de la mission de l'Église fait que on risque d'être découragé et d'être un peu gêné pour continuer la mission de l'Église. Et on est en permanence entre cette ligne de crête, entre les missions conquêtes. C'est-à-dire, on est tellement impliqué dans la mission, l'annonce de Jésus-Christ, que c'est une conquête quasi militaire. Et un certain nombre, en particulier de ce qu'on appelait la mission ad extra, la mission vers les peuples ad gentes, vers les gens qui n'avaient pas connu l'Évangile dans les siècles précédents, ont après coup eu le goût d'une conquête de l'Occident. Et à l'inverse, des fois, on voudra être tellement respectueux, tellement discret, tellement laisser Dieu à sa place, tellement être discret vis-à-vis des autres, que ça va frôler la démission. Donc, vous voyez que le chrétien, il est toujours sur une ligne de crête. Et que ça va être difficile. Voilà. Et ça, bon, l'universalité de l'Évangile s'adresse à tout, mais très contextuel, l'enracinement biblique. Je redis un peu la même chose, là, parce que, finalement, ce que j'avais mis sur la diapo expliquait le texte de Jean-Paul II. Je vais maintenant reparler de ces trois figures de l'Ancien Testament, le prêtre, le prophète, le roi. On peut aussi les dire en termes de verbes d'action. Célébrer, prier, adorer pour le prêtre. Prophète, annoncer, témoigner. Le roi, c'est l'ordre du service. Donc, servir. On pourrait le mettre en nom, en verbe d'action. Simplement, les rôles dans l'Ancien Testament de ces personnages, de ces figures, le prêtre, c'est celui qui favorise, permet la rencontre entre de l'homme avec Dieu qui s'est rendu présent. C'est-à-dire, Dieu vient à la rencontre de l'homme, mais ce n'est pas toujours évident soit de le comprendre, soit de le supporter. Je ne sais pas si vous vous rappelez les Israélites au désert qui disent à Moïse qu'ils ne supportent pas cette lumière et que Moïse doit s'occuper seul de la rencontre avec Dieu et avec Aaron, qui est la figure du grand prêtre.
Dans les nombres.
Dans les nombres, oui. Donc le prêtre, c'est celui qui va favoriser l'accueil du don de Dieu, qui va permettre la rencontre de l'homme avec Dieu. En fait, c'est plutôt l'accueil de Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. Ça, c'est la figure du prêtre. Le prophète, c'est celui qui décrypte le présent, décrypte le passé, qui comprend et qui annonce, qui comprend, qui a l'intelligence de ce que Dieu a fait et fera pour l'homme. Vous voyez ? Le prophète. Quant au roi, c'est celui qui gouverne son peuple pour qu'il vive bien. Il va favoriser l'existence nouvelle qui vient de la communion avec Dieu. Je pense toujours à une bande dessinée qui n'a rien de chrétien. C'est les petits Is No Good et ça commence toujours dans Magnat la Magnifique, le peuple vivait heureux car le calife était bon. Et ça, c'est une donnée de la Bible. Quand le roi est bon, le peuple est heureux. Voilà, oui, mais c'est pas si. Alors ça, c'est les trois figures bibliques du prêtre, du prophète, du roi que Jésus accomplit entièrement dans sa personne. Et ceci, ça va entraîner pour l'Église et pour les baptisés en tant que groupe et pour chacun de nous. Ce qu'on a, la théologie appelle en latin les tria munera. Alors, tria, parce qu'il y a les trois position. Qu'on pourrait dire, par exemple, adorer, témoigner, servir, en termes de verbe, 3. Et munera, je l'ai laissé en latin parce que c'est un mot qui a plusieurs sens, qui est polysémique, et c'est justement intéressant qu'il soit polysémique. Munera, ça peut être le souci ou le soin. Donc, c'est des soucis que l'Église, les baptisés, ont apportés. Des soins qu'ils ont à avoir vis-à-vis de Dieu des autres hommes. Ça peut être également des fonctions à occuper. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait quelqu'un en charge de porter ce souci. Ça peut être, beaucoup plus terre à terre, des tâches à accomplir. Donc, ces tria munera, ça fait partie de la mission de l'Église. Enfin, la mission de l'Église peut se comprendre à travers ces tria munera. Et donc, ben, on va commencer à regarder ces trois
figures.
Alors, elles viennent des trois prêtres, prophètes et rois. C'est les trois fonctions à occuper, les trois soucis à porter, les trois. Et puis, les tâches, bien sûr, c'est beaucoup plus décomposé, mais elles vont s'intégrer quand on porte un souci, ça se décompose en tâches. Voilà. OK ? Alors, on va commencer dans l'ordre. Et les chrétiens sont donc un peuple de prêtres. Et j'ai commencé par l'écriture, la lettre de Pierre, la première lettre de Pierre au chapitre 2. Et je vous ai mis là le verset 4 et le verset 9, très connu. Vous-même, comme des pierres vivantes, entrez dans la construction de la maison habitée par l'Esprit, pour constituer une sainte communauté sacerdotale, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors, je vous rappelle, sacerdotal, c'est ce qui se rapporte au prêtre en grec et en latin. C'est le prêtre, celui qui offrait le sacrifice dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas le prêtre presbyte de chez saint Paul. On reviendra sur ces questions-là la semaine prochaine. C'est celui de l'Ancien Testament qui offrait des sacrifices. Donc, qu'est-ce qu'il dit, l'apôtre Pierre, là, enfin, du moins le rédacteur de l'épître dite de Pierre, dit... Vous constituez une sainte communauté sacerdotale. On est au tout début de l'Église. L'Église n'est pas encore différenciée, il n'y a pas encore de ministère. Tous sont la communauté sacerdotale. Tous sont des prêtres qui offrent des sacrifices spirituels agréables. On reviendra sur ce terme dans deux diapos. Quelques versets plus loin, le même apôtre, dans sa même épître, dit « Vous êtes la race élue, la communauté sacerdotale du roi, la nation sainte, le peuple que Dieu s'est acquis pour que vous proclamiez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Donc, il s'adresse à l'ensemble des chrétiens, qu'ils soient d'origine juive ou pas, qu'il appelle la nation sainte, le peuple que Dieu s'est acquis, important. Et pourquoi on est une communauté sacerdotale? Pour proclamer les hauts faits du Seigneur. Donc, rendre à Dieu le bienfait qui nous est donné par la louange et l'action de grâce. Finalement, le être prêtre, puisqu'on a mis ça dans la figure du prêtre, c'est en fait une attitude du croyant devant Dieu. Dans un vocabulaire qui date un peu, c'était ce qu'on appelait la piété, c'est-à-dire la juste position du croyant devant Dieu. J'ai mis cette phrase du psaume 110, « Tu es prêtre pour toujours » à la manière de Melchisédek. Alors Melchisédek, vous pourrez aller chercher dans la Genèse, dans l'histoire d'Abraham, c'est un petit personnage secondaire qui est prêtre mais qui n'est pas de la lignée d'Abraham. Hein. C'est un prêtre de Canaan dans lequel Abraham, vous savez, qui est un, il a quitté Ur en Chaldée et il erre dans la terre promise qui n'est pas encore la sienne, où il essaye qu'on l'héberge. La terre ne deviendra la terre promise qu'après Moïse. Et il rencontre ce prêtre Melchisédek qui a offert un sacrifice et qui est agréé par Dieu. Et cet étranger, pour Abraham, qui n'appartient pas à sa race, c'est celui qui va lui permettre de renouer un contact avec Dieu dans un moment difficile pour lui. Parce que Abraham, il a vraiment toujours des hauts et des bas dans son histoire. C'est très intéressant de lire l'histoire d'Abraham. Et ce Melchisédek, il est cité dans la prière eucharistique numéro 1, qu'on appelle également le canon romain, parce que c'est celle qui nous vient du Concile de Trente. Alors, finalement, il faut se rappeler que c'est toujours Dieu qui a l'initiative du dialogue avec l'homme, qui a l'initiative du don. Et l'attitude, on peut appeler sacerdotale, l'attitude de piété, c'est une réponse du croyant, un accueil du don, un merci. Et il ne s'agit pas de se cacher, retire-toi de là, car je suis un homme pécheur. Il s'agit de reconnaître et d'accueillir et de dire merci dans l'action de grâce et dans le dialogue. Toute l'existence du chrétien, mais c'est toute l'existence du croyant. Je crois que l'autre jour, je vous parlais de ce que j'avais remarqué chez les croyants hindouistes à Bali, qui accueillent le don par des offrandes qu'ils mettent partout. C'est l'accueil du don, donc l'existence chrétienne de tous les chrétiens est sacerdotale, c'est-à-dire une existence d'accueil du don. Et accueillir le don, ça se fait en écoutant Dieu, et donc l'écriture est toujours au centre de cet accueil du don. Ce qui évite, en accueillant le don et en retournant à l'écriture, c'est-à-dire une histoire qui n'est pas la nôtre, qui nous dit beaucoup de choses, mais qu'on est obligé de recevoir par des tours, des médiations, ça permet d'éviter de s'approprier Dieu en disant qu'il passe uniquement, qu'on a une ligne directe, mais se reconnaître dans une lignée de croyantes et l'accueillir en même temps. Et donc, l'Église, l'ensemble des baptisés, dans ses missions, dans sa vocation, elle a d'accueillir ce don de Dieu, d'en témoigner devant les hommes. Mais, rappelez-vous Abraham qui prie pour Sodome, rappelez-vous plein d'autres prières, en échange de cette confiance sur le don de Dieu, elle porte la prière vers le Seigneur. Elle demande au Seigneur ce dont les hommes ont besoin. Et Jésus nous le dit bien, demandez et vous recevrez. Alors, je reviendrai après sur la vie liturgique qui anticipe le royaume à venir. Mais je reviendrai après. Avant, je voudrais vous mettre quelques mots du Concile Vatican II, de Lumen Gentium, donc Constitution dogmatique sur l'Église, simplement parce que c'est difficile à lire, mais que c'est bien d'avoir un peu une idée de ce qu'il y a dedans. Je lis. On est au niveau numéro 10 et 11. Le Christ, Seigneur, grand prêtre d'entre les hommes, a fait du peuple nouveau un royaume des prêtres pour son Dieu et Père. Là, vous reconnaissez que le Concile cite la lettre de Pierre que je vous ai mis deux diapos plus. Les baptisés, en effet, par la régénération et l'onction du Saint-Esprit, sont consacrés pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint. Alors, je reviens sur le terme consacré. La consécration, l'onction, qui dans l'Ancien Testament est faite à partir d'huile, je ne sais pas,
le
Saint-Crème actuellement, tous les baptisés ont reçu cette consécration le jour de leur baptême. Prêtres, prophètes et rois. D'ailleurs, tous ont été baptisés prêtres, prophètes et rois. Alors, pour être une demeure spirituelle, c'est-à-dire un lieu où repose l'esprit, une demeure pour l'esprit, et un sacerdoce saint, c'est-à-dire un lieu d'accueil du don et de réponse à ce don, de façon à offrir par toutes les activités du chrétien autant d'hosties spirituelles en proclamant les merveilles de celui qui des ténèbres les a appelées à son admirable lumière. Je continue, après je commente. C'est pourquoi tous les disciples du Christ, persévérant dans la prière et la louange, doivent s'offrir en victime vivante, sainte, agréable à Dieu, porter témoignage du Christ sur toute la surface de la terre et rendre raison sur toute requête de l'espérance qui est en eux d'une vie éternelle. Alors, le langage date un peu. La question de l'hostie spirituelle, des victimes vivantes, ça a peut-être un petit goût de sacrifice à l'ancienne, mais je crois que ce n'est pas ça qu'il faut entendre. C'est plutôt c'est une attitude d'offrande de toute notre vie. Dieu, tous les matins, rendre grâce à Dieu pour la journée qu'il s'ouvre à nous et qu'il va nous donner. Tous les soirs, remercier Dieu de ce que nous avons reçu ce jour. Être capable, le soir, de se rendre compte que Dieu nous a accompagnés aujourd'hui. Après, on pourra demander pardon pour les loupés qui vont exister, qui ont forcément un peu existé. Mais la première des attitudes spirituelles, c'est ça. C'est quelque chose, je ne sais pas si vous connaissez ce mouvement, le mouvement eucharistique des jeunes, le MEJ, a admirablement compris ça. Et ils font faire ça aux gamins de 8 ans, ou de 20 d'ailleurs, de façon très, très profonde et très joyeuse. Puisque les jeunes de nos pays ont plutôt des raisons d'être heureux. Voilà. Après, bon, la louange, la prière, tout, le témoignage, ça, on comprend. Alors, je vais revenir sur l'aspect liturgique de la prière. Dans la prière, il y a la prière qu'on appelle liturgique. On en a parlé quand on a parlé de l'Eucharistie. C'est un langage, une structure, qui est une structure, en principe, de l'ensemble de l'Église, des groupes ecclésiaux. Je vous ai parlé de la liturgie eucharistique, on a lu la prière eucharistique. Et je reviens en disant qu'il y a à la fois de la parole et à la fois du langage non verbal, des positions dans l'Église, des positions corporelles, les uns par rapport aux autres, etc. Des rites, un ordre dans lequel on fait les choses. Et les sacrements en font partie, et c'est destiné à favoriser cette rencontre de Dieu et à le faire exister dans le monde. Quelque chose d'important, la liturgie est répétitive pour lutter contre l'oubli de l'Évangile, la prégnance du monde. La semaine dernière, on a parlé, cette semaine dernière, oui, ou il y a deux semaines, je ne sais plus, du monde pluriel dans lequel nous sommes appelés à vivre, d'un monde dans lequel Dieu n'habite plus de façon évidente. Je vous rappelle, quand j'ai fait l'histoire de l'Église, je vous ai dit qu'au moment qu'on appelait la chrétienté, les gens vivaient en permanence sous le regard de Dieu. L'Église, c'était la maison commune. On y faisait, on y rentrait, on y sortait. Dieu était présent, on marchait toujours avec lui. Le moins qu'on puisse dire, c'est que nous vivons dans un monde où Dieu se fait discret. « Tu es un Dieu qui se cache », dit le prophète Isaïe. Et donc, la liturgie, dans ce monde où Dieu a du mal à être là, c'est quelque chose qui va nous permettre de lutter contre l'oubli. Tous les dimanches, nous irons à la messe. Tous les soirs, ou une fois par semaine, je ferai une prière à telle heure. Et c'est une discipline de répétition individuelle, collective. C'est comme un rendez-vous qui permet de ne pas oublier dans un monde qui fait tout pour que nous oublions Dieu. Et donc c'est extrêmement important, et c'est pour ça que ça imprègne les croyants et l'Église, cette liturgie. Alors, ce que je dirais, c'est que la liturgie, ce n'est pas un lieu de vie. C'est-à-dire, on n'est pas appelé, en tant que chrétien, à passer notre vie, sauf vocation particulière dont nous parlerons tout à l'heure, à passer notre vie uniquement en prière. Nous avons à assumer les tâches de ce monde, mais ce n'est pas non plus une parenthèse qui n'influe pas sur le reste de notre vie. C'est comme un entracte qui permet de reprendre des forces, de se nourrir, de faire le bilan sur ce qu'on a vu. Et il se situe, cette liturgie, entre la convocation, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit au début de la messe, et l'envoi, aller dans la paix du Christ. Il y a ce lieu pour reprendre force et vie, refaire exister Dieu dans nos vies. Très très important dans la vie humaine, sociale et personnelle, la répétition. Alors, il y a la liturgie ecclésiale, celle de la messe du dimanche, à laquelle on peut participer, mais il y a aussi toutes les liturgies, entre guillemets, personnelles ou de petits groupes, auxquels nous pouvons choisir de nous astreindre, décider à quelle heure et comment, et avec quelle régularité je prierai, même si j'en ai pas envie. Éventuellement l'écrire sur son agenda, pour lutter contre la perte de la place de Dieu dans nos vies. Alors là, j'ai développé le premier thème, la première figure, celle du prêtre. La deuxième figure, c'est celle du prophète, et qui est bien décrite dans ce verset d'Isaïe, mais j'aurais pu prendre plein d'autres prophètes de l'Ancien Testament. Le Seigneur m'a donné une langue de disciple pour que je sache soulager l'affaibli. Il fait surgir une parole. Matin après matin, il me fait dresser l'oreille pour que j'écoute comme les disciples. Donc le prophète, il est en permanence dans cette double attitude active d'écoute de la parole, d'appropriation pour l'écouter, l'approprier, c'est-à-dire la faire sienne, cette parole, et puis l'annoncer. Alors, l'Église, les baptisés, tous nous recevons cette parole et on la reçoit pour nous, mais c'est également pour la communiquer. On ne la communiquera que si on se l'est appropriée, si nous l'avons vraiment. Alors, du coup, cette partie réception, appropriation de la bonne nouvelle de l'Évangile, qui passe par l'Écriture souvent. C'est un travail d'écoute. J'ai mis de l'Évangile, mais l'Évangile, c'est aussi Paul, c'est aussi la Bible, c'est un sens beaucoup plus large. Mais c'est également un travail d'écoute de ce qu'on appelle les signes des temps, ce qui est une expression que le Concile a repris, mais qui est empruntée à l'Évangile de Matthieu. Dans le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu nous dit? Où Dieu nous parle-t-il? Et on ne peut entendre Dieu dans le monde d'aujourd'hui sans s'approprier Dieu que si on est imprégné de l'Écriture, de l'Évangile, qui nous permet de nous décentrer et de ne pas lire les signes des temps avec notre grille, notre intelligence, mais avec une intelligence éclairée par l'Esprit-Saint. Ce travail d'intelligence de la foi, c'est aussi un travail ecclésial. Alors, c'est tout ce qui est... C'est le cifre. Voilà. C'est toute l'activité de théologie dans l'Église. C'est tout ce qui est groupe des réflexions. C'est tout ce qui est groupe d'échanges. Et à tous les niveaux, formels, informels, c'est extrêmement important pour que les chrétiens vivent, comprennent cette parole. Et après ça, eh bien, après ça, ou en même temps, il n'y a pas besoin d'être complètement parfait et d'avoir tout compris pour se lancer, eh bien, il y a l'aspect annonce. Finalement, en tant que messager qui a reçu ce don de la parole, qui a entendu un message, eh bien, on se transforme, la personne du messager se transforme en message. Elle devient manifestation du Dieu vivant, explicitement ou implicitement. Il peut des fois suffire d'être une personne qui fait que les gens se sentent bien, se sentent sauvés et sentent que la vie a du goût. Alors il ne faut pas oublier, après, qu'il y a un travail de l'annonce. Ça ne se fait pas, le message doit s'adapter aux circonstances, aux destinataires. Et donc là, tout ce qui est prédication, catéchèse, enseignement, témoignage, art, etc., c'est un travail actif. Certes, il faut recevoir, se mettre à l'écoute de l'Esprit-Saint, mais l'Esprit-Saint fait rien si nous, on ne retrousse pas nos manches. Comme j'avais dit que je m'étais dit qu'il fallait un peu parler du Concile, au niveau du prophétisme,
le Concile de quoi? Pardon.
Toujours. Alors, quand je dis le Concile sans préciser, c'est toujours Vatican II.
D'accord. Okay.
Sinon, je vous précise duquel il s'agit. Hein? Puisque c'est le dernier, et en plus, c'est celui qui s'est beaucoup attaqué à l'Église, enfin, à la question de l'Église.
D'accord.
Si je dois dire un autre, je dis Concile de Trente, Concile de Florence, etc. Alors, toujours le texte Lumen Gentium. Je vous lis ce petit passage, et après, je le commente. Le peuple saint de Dieu participe aussi de la fonction prophétique du Christ. Il répand son vivant témoignage, avant tout par une vie de foi et de charité. La collectivité des fidèles, ayant l'onction qui vient du Saint, ne peut se tromper dans la foi. Ce don particulier qu'elle possède, elle le manifeste moyennant le sens surnaturel de la foi, qui est celui du peuple tout entier, lorsque des évêques jusqu'au dernier des fidèles laïcs, elle apporte aux vérités concernant la foi et les mœurs un consentement universel. Grâce en effet à ce sens de la foi qui est éveillé et soutenu par l'esprit de vérité et sous la conduite du magistère sacré, pourvu qu'il lui obéisse fidèlement, le peuple de Dieu reçoit non plus une parole humaine, mais véritablement la parole de Dieu. Il s'attache indéfectiblement à la foi transmise au saint une fois pour toutes. Il y pénètre plus profondément par un jugement droit et la met plus parfaitement en œuvre dans sa vie. En prêchant l'Évangile, l'Église dispose ceux qui l'entendent à croire et à confesser la foi. À tout disciple du Christ incombe pour sa part la charge de l'expansion de la foi. Alors, ce texte est compliqué à lire parce que le langage est difficile, mais aussi parce qu'il date. On est au début des années 60. Dans l'Église issue du Concile de Trente, là je le précise, vous aviez un schéma ecclésiologique assez simple. On parlait d'église enseignante et d'église enseignée. C'était clair. En plus, je n'aurais pas été là. Les enseignants, ils étaient forcément prêtres. Et les enseignés, c'était tous les non-prêtres. Donc, le concile est en train de se dire qu'il faut changer les choses, qu'on ne peut pas avoir cette image également du pasteur et des brebis. Enfin, c'était toutes ces images-là qui représentaient l'Église issue du Concile de Trente et qui avait été enseignée aux prêtres dans les séminaires, etc. Mais on est quand même au tout début de cette réflexion. Et donc, on parle du peuple saint de Dieu et on lui reconnaît qu'il participe à la fonction prophétique du Christ, alors qu'on avait du mal à le lui permettre. Ceci dit, on avait continué à baptiser tous les enfants, prêtres, prophètes et rois. Et n'oublions pas l'ex-orandi, l'ex-credendi, c'est-à-dire la prière est première par rapport à la doctrine. Et donc, la loi de la prière, c'était toujours que tous étaient prêtres, prophètes, et donc prophètes et rois. Mais on avait quand même un peu de mal à se dire que tous ces laïcs, tous ces non-clairs, allaient pouvoir avoir le sens de la foi, l'appropriation de l'écriture, de la bonne nouvelle qui leur permettrait de parler. Et c'est là qu'on a ces mots, la collectivité des fidèles, ayant l'onction qui vient du Saint, c'est-à-dire ayant reçu le Saint-Esprit, ne peut se tromper dans la foi. Donc cette idée que c'est ensemble qu'on a la notion de la vraie foi. C'est pour ça que je vous disais que c'est aussi très très important tout ce qui est groupe, tout ce qui est partage de lecture d'évangile, etc. Mais là, on se dit quand même, il y a un petit peu des limites. Alors on parle du sens surnaturel de la foi, c'est-à-dire reçu de Dieu, qui est celui du peuple tout entier. Et lorsque des évêques jusqu'au dernier des fidèles laïcs, elle apporte aux vérités concernant la foi et les mœurs un consentement universel. L'expression, entre guillemets, est une expression de saint Augustin, grand pasteur, qui théorise son expérience de l'Église, dans ses sermons, mais également dans ses œuvres qui remplissent deux tomes de la Pléiade. Ne l'oublions pas, un grand écrivain, saint Augustin. Voilà. Alors, au moment du concile, il y avait ceux qui voulaient vraiment avancer dans un changement dans l'Église, sortir de ce schéma de l'Église entre une Église enseignante, une Église enseignée. Et puis il y a ceux qui disaient, attention, méfiance, où on va, ça va être le désordre le plus absolu. Et donc il fallait toujours, et quand on lit le concile, on a toujours un petit peu la part des choses et les deux qui s'expriment. On est sur un texte de consensus. Donc il fallait un petit peu mettre des barrières, et on continue. Grâce à ce sens de la foi qui est éveillé et soutenu par l'Esprit de vérité, donc c'est bien l'Esprit Saint qui donne le sens de la foi à tous les baptisés, et sous la conduite du magistère sacré, c'est-à-dire de la hiérarchie, pourvu qu'ils lui obéissent fidèlement, le peuple de Dieu reçoit non plus une parole humaine, mais la parole de Dieu. Et puis, après, il s'attache à la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, c'est-à-dire, elle a été Jésus-Christ est l'unique médiateur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à comprendre en permanence, mais ça veut dire qu'après Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ l'unique médiateur. Bon. Et du coup, eh bien, tout disciple devient à la charge de l'expansion de la foi. Donc vous voyez ce langage du concile qui est toujours entre l'extrême prudence et l'ouverture à tous les baptisés. Vous vous rappelez de l'époque de date le cléricalisme, hein, 11e siècle. Voilà. Donc, important de se rendre compte que on a fait beaucoup de chemin en 50 ans. Au moment, avant le concile, normalement, un bon chrétien qui n'était pas prêtre n'avait pas de Bible chez lui. En ce sens que l'accès direct à la parole de Dieu était considéré comme dangereux pour celui qui ne faisait partie que de l'église enseignée, et non pas de l'église enseignante, et il devait recevoir la parole par l'intermédiaire du prêtre. Et voilà.
C'est très judaïque.
C'est, oui, mais vous avez aussi tout le résultat d'une théologie dite de controverse. Parce que rappelez-vous que Luther et les réformateurs, on y reviendra, avaient voulu redonner la parole à tous les chrétiens. Et donc, toutes les fois, je vous l'ai dit, pendant toute cette période, qui heureusement est derrière nous. Il suffisait que les protestants fassent quelque chose pour que les catholiques fassent le contraire. Et donc, puisque les protestants avaient édité des bibles, imprimé des bibles, donné des bibles à leurs ouailles, eh bien les catholiques, on allait surtout pas faire pareil. Oui ?
Oui, mais il me semble, je n'étais pas là à l'époque, mais en revanche, ils avaient les missels.
Ils avaient des missels
extrêmement précis et qui leur réglaient toutes les prières de la journée du matin au soir.
Absolument.
Quand même.
Alors, ils avaient deux choses. Ils avaient les missels qui réglaient la liturgie, qui leur permettaient de suivre cette liturgie en latin, qui arrive assez tard, je dirais vers 1850, en sens que cette liturgie est en latin, mais quand on se dit... on leur lit l'évangile en latin, on leur lit l'épître en latin, qu'ils sachent de quoi ils savent. Donc ça, c'est le missel. Et ils avaient des livres de piété sur lesquels il y avait effectivement toutes les prières de la journée, pour toutes les circonstances, pour le jour où on a le cafard, pour sa fête, pour les anges gardiens, etc. Pour la petite histoire, je suis en train de faire des rangements chez mes beaux-parents et j'en trouve... des magnifiques.
Oui, magnifiques, mais on comprend.
Mais
c'est incompréhensible pour nous.
Avec le recul actuel, je trouve que c'est très beau. D'abord, les objets sont très beaux, parce que comme c'était une église très fixée, on le recevait pour sa communion, et on l'avait toute sa vie. Alors qu'actuellement, notre Magnificat ou notre prière en église, on le reçoit en début de mois et on le jette à la fin du mois. Ça ne nous empêche pas de prier avec l'église. Justement, j'avais noté que je pouvais mettre sur la fonction sacerdotale un petit mot sur les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui. Nos grands-mères, nos arrière-grands-mères avaient ces livres de piété, ces missels. Nous, on a ça, puis on a plein d'applis aussi. Vous savez, on peut se les mettre dans les oreilles. 10 minutes pendant qu'on attend le métro, ben, on lutte contre l'oubli de Dieu dans le monde contemporain sur le quai du métro. Donc, et c'est important. Voilà. Et le titre qu'avaient pris les assomptionnistes pour leur ouvrage, leur journal, c'est le premier qui est sorti, qui s'appelle « Prions en Église », est extrêmement subtil. À la fois, c'est bien toute l'Église qui prie, et à la fois, on s'en sert tout seul. Bon, on l'emporte aussi éventuellement à la messe. Mais vous voyez voilà. Alors là, je reviens sur le sacerdotal, excusez-moi. Donc, voilà pour le prophétique. On dit 5 minutes de questions, là, avant de passer au royaume, au roi.
Quand vous avez dit qu'il fallait se référer, ça permet de ne pas s'inventer un dieu, mais les évangiles ont été quand même écrits, il y a eu une sélection qui a été faite, donc il y a eu un choix quand même. Donc ce sont bien des hommes qui ont donné une représentation de Dieu précise, qui nous ont transmis. Voilà.
Absolument, mais ça reste des hommes qui ont fait ça de façon, je dirais, collégiale. C'est pas un tel qui a décidé. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? Alors, vous avez une image qui est bien sûr totalement légendaire. Hein, totalement légendaire. Hein. Mais c'est l'image de la Septante. Je ne sais pas si on vous en a parlé.
C'est l'année dernière.
Voilà, on vous en a parlé. C'est totalement légendaire, mais ça dit bien qu'en fait, pour que la parole soit une parole de Dieu, il faut qu'on soit plusieurs à l'authentifier. Quand vous serez plusieurs réunis en mon nom, je serai au milieu de vous. Et on cède les uns. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand on lit des textes qui ont été écartés et qu'on a à notre disposition, les évangiles apocryphes, vous trouvez ça chez n'importe quel libraire. Il y a un très bel ouvrage de la Pléiade avec des évangiles apocryphes. Donc c'est accessible, hein, et puis vous n'irez pas en enfer pour avoir lu les évangiles apocryphes. Une réflexion un jour d'un adolescent qui après avoir lu le Da Vinci Code me dit « Ah mais on nous cache les évangiles apocryphes », donc je lui prête mon ouvrage. Il me le rend la semaine suivante, il me répond « C'est la même histoire mais elle est moins bien écrite ». Donc... Voilà. Alors, c'était du bon sens d'un adolescent de 15 ans. C'était pas tout à fait faux, quoi. C'est l'évangile qu'on a gardé est assez succinct pour permettre l'accès à Dieu sans nous encombrer de fioritures inutiles.
Est-ce que dans les moyens que l'on a aujourd'hui, il me semble que c'est plus abordable par des gens plus simples. Je reviens toujours au Missel,
oui.
Qui était en latin. Alors je sais qu'à l'époque on apprenait le latin assez facilement.
Certains étaient en français, hein. J'en ai en français.
Ah oui.
Ces livres de piété qu'on distribuait en particulier dans les pensionnats de jeunes filles, à partir de 1850, on en a en français. Alors, après ça...
Je me dis que quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était probablement réservé quand même à une certaine élite.
La piété populaire avait des façons de... des espèces de liturgies familiales, personnelles. L'Angélus, c'est une prière très très simple et qu'il savait par cœur et qui... trois fois par jour, leur redisait, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Le chapelet, c'est assez simple. Ça nourrissait la vie de gens dont beaucoup ne savaient même pas lire et écrire. Et comme les Juifs avaient le « Écoute Israël, notre Dieu est l'unique », et les musulmans disent 5 fois par jour... Allah est l'unique et Mohamed est son prophète. Donc, cette répétition pouvait nourrir la vie spirituelle de gens plus simples. Nous autres, on a de la chance, on est dans un pays et dans une civilisation où on sait tous lire et écrire, donc on peut aller à des textes plus élaborés, à lire l'Évangile. Alors, qu'est-ce que j'ai lu aussi une fois ? Chez les protestants, en particulier des mouvances évangéliques, on apprend traditionnellement par cœur des passages entiers de l'Écriture. Ce qui est extrêmement intéressant de se retrouver coincé dans le métro et de se réciter un chapitre de l'Écriture. Et la personne qui écrivait ça disait « Les protestants n'ont pas un gène différent des autres ». C'est simplement qu'ils ont appris depuis qu'ils sont petits, quoi.
Et l'imitation de Jésus-Christ, qu'est-ce que c'était que ça ?
C'était un livre de piété qui est sorti aux alentours du 14e. Et on était exactement dans ce que je vous dis, un livre de piété, c'est-à-dire une façon d'aider les gens à partir d'un ouvrage. Alors, il est sorti un peu avant l'invention de l'écriture, mais de l'imprimerie, excusez-moi. Donc au début, c'était un livre que n'avaient que quelques moines, quelques clercs qui le lisaient à des laïcs, parce que ce n'était pas destiné spécialement à une élite.
Hein. Écrit par qui ?
Je ne sais pas si on sait par qui a été écrit l'Imitation de Jésus-Christ. Je pourrais rechercher, mais je ne suis pas sûre que ce ne soit pas un fruit ecclésial, je ne peux pas vous dire. C'est une époque où on cherche justement à sortir d'une piété élitiste et à donner à des laïcs ou à des gens plus ordinaires les moyens de vivre leur foi et leur prière. Alors après, c'est très ancré dans une période et des préoccupations d'une époque.
C'est de la vulgarisation, en quelque
sorte. Plus que ça. Oui, de l'accessibilité par rapport à la vie monastique, par exemple. Et c'est quelque chose qui est accessible, une piété qui est accessible à tout un chacun, qu'il soit, qui n'est pas clair et qui vit dans la vie quotidienne, qui vit au champ, qui est commerçant, etc. Ou bien qui a des responsabilités.
Qui est très ancien.
Oui, c'est fin 13e, début 14e. Ça, par contre, je suis assez sûre de moi sur le... C'est ce qu'on avait appelé la dévotion moderna, le tout début. 14e, je dirais. La fin du Moyen-Âge, quand il commence à basculer vers la Renaissance. Que la préoccupation individuelle commence à être prégnante dans la société. Parce qu'avant, les gens, ils étaient des personnes, chacune à leur place, dans un système social. Alors que là, on arrive à une préoccupation de l'individu. Donc chacun peut, pour lui-même, essayer d'imiter Jésus-Christ. C'est intéressant à lire.
Et le catéchisme ?
Alors, le catéchisme, vous savez quand est-ce que ça apparaît ? C'est réforme et contre-réforme. C'est-à-dire que, je crois que c'est Luther qui est l'inventeur du genre, ou Calvin. Je ne saurais plus vous dire si c'est Luther ou Calvin. Mais l'idée, c'est que les chrétiens qui ne sont pas des clercs, qui n'ont pas fait des études de théologie, doivent avoir une espèce de savoir de la doctrine chrétienne. Et Calvin, ça j'en suis sûre, il a un petit catéchisme et un grand catéchisme qui fonctionne par question-réponse. Qu'est-ce que tous les chrétiens de son église doivent savoir ? Mais comme il a la tête sur les épaules, il a le petit catéchisme pour les gens qui sont simples, qui ont... et le grand catéchisme pour des gens qui sont accessibles, qui peuvent accéder à quelque chose de plus complexe. Et finalement, quand je vous dis qu'il suffit que les protestants fassent quelque chose pour que les catholiques disent non, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que le Concile de Trente met en place le catéchisme. Et qui est à la fois des textes et à la fois une pratique sous la responsabilité des clercs jusque dans les années 50. Même si les clercs se font aider pour le catéchisme. Mais on voit très bien, par exemple, dans l'histoire de la catéchèse, que dans les années 30 en France, celles qu'on a appelées à l'époque les mamans catéchistes ou les dames catéchistes, elles faisaient de la répétition. C'est-à-dire que le curé prenait tous les gamins de la paroisse, les 200 gamins, dans l'église et leur récitait les questions, les réponses, et qu'après, les dames les prenaient par petits groupes pour que ça rentre. Vous voyez, à l'origine. Et il y avait toutes ces questions-réponses qui étaient écrites sur un schéma de catéchisme un peu qui pour nous était un petit peu dépassé, mais qui correspondait aux besoins. Les vérités à croire, les sacrements à recevoir et les devoirs ou les devoirs à respecter ou les... Il y avait trois parties, donc la partie foi, contenu de la foi, la partie sacrement et la partie morale. Voilà.
Et, à cette époque,
et aussi... les commandements à respecter.
À cette époque, il y a aussi sorti la miche de pain.
Oui, ça c'était missionnaire et on est dans le troisième. On va s'arrêter parce que Anne est là pour la pause.